cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. You, what are you gonna do? Little boys get tame like the shoe. You're midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm capulet, you're monarch, you ain't feeling. Eh ben, salut, salut. Il est 19h04 à l'horloge intérieure du bureau du studio de Radio Canu. Si, marche ton micro.
Bien sûr.
Vas-y, parle.
Vous m'entendez?
Ah ouais, c'est bizarre ça. Mais si.
Et là, ouais, c'est bon.
Ah ouais, là, c'est bien.
Ouais. Pardon.
Donc, qu'est-ce qu'on disait? On disait qu'il était 19h, maintenant quasiment 19h05 à l'horloge, mais de toute façon, je suis pas entièrement certain qu'elle soit à l'heure à une minute près. Alors, on laisse tomber. En tout cas, vous êtes bien sur le 102.2 et c'est bien l'heure du Canu Info.
Eh ben, ce soir, on va parler grève à la SNCF et les usagers qui sont mécontents. Les usagers mécontents sont unanimes. Il y en a ras-le-bol de ces grèves.
Puis braquage en solitaire.
Ensuite, on reviendra sur la condamnation de Pinar Selek qui a été annulée en Turquie.
12 000 euros d'amende, c'est le prix de la solidarité.
Ensuite, on ira faire un tour au Rwanda.
Et puis, piratage du site internet de Monsanto. Et puis après, c'est pas impossible qu'on finisse un petit peu en avance, hein, parce que en ce moment, c'est comme ça. The merchant of Venice couldn't see your CD. As for me, all's well that ends well. Your boy is like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best.
Bon alors, on peut quand même commencer ce journal par une petite dédicace aux élèves de terminale qui commenceront leur épreuve lundi 16 juin, c'est-à-dire lundi prochain. Bon courage à vous, et parce que dans la semaine qui arrive, elle risque d'être longue et chiante. Et quand on vous dit qu'il faut bien choisir son orientation post-bac, vous allez voir, écoutez bien l'info qui suit. Pendant un exercice de canyoning du GIPN à La Réunion, un flic a coulé en traversant une rivière juste après avoir fait une descente en rappel. Ses collègues, composés exclusivement de ce corps d'élite qu'est la police nationale et principalement le GIPN, voyant la scène, se précipitent pour aller repêcher leur petit camarade, mais c'était déjà trop tard, il était mort. Et ben nous, ici, on pense que s'il avait choisi comme orientation pompier, bah dans la même situation, il s'en serait mieux tiré. Dommage.
Allez, maintenant, on va faire comme tout le monde, on va vous parler de la grève à la SNCF.
Ouais.
Alors, on a bien pensé à vous faire aller sur les quais de gare, interviewer des usagers mécontents, hein, vous les faire écouter pendant des heures, dire ces feignants de fonctionnaires, tout ça. Après, non, finalement, on n'a pas fait ça. Et bien que ce soit peut-être un petit peu plus chiant, un petit peu moins...
Racoleur.
On a préféré essayer de comprendre un petit peu ce que c'est que cette réforme ferroviaire, celle qui jette les cheminots dans la grève aujourd'hui, demain et peut-être plus si manque d'affinité surtout. Alors, bon, quand même, pour parler un peu de la grève en soi, c'est une grève contre un projet de réforme qui doit être examiné à l'Assemblée à partir du 17 juin. Normalement, ça devrait être 17, 18, 19 juin. Ça fait un moment que le projet de loi existe, hein, et donc voilà, tout le monde sait très bien ce qu'il y a dedans, tout ça. Là, ce qui se passe, c'est que la CGT et Sudrail ont lancé un appel à la grève. Elles ont été rejointes par deux autres syndicats. Il y a encore d'autres syndicats, tiens, par exemple la CFDT, qui pense qu'on va pas aller faire la grève, qu'il vaut mieux dialoguer que de se lancer dans un rapport de force.
Peut-être que c'est plus vraiment un syndicat.
Si un dialogue avec un rapport de force, on n'avait pas un peu plus de chance de. Et la CFDT, attention, hein, qui dit que c'est un enjeu très très fort cette réforme et que donc ils ne font pas faire la grève. D'autres encore qui trouvent que le projet de loi il n'est pas encore discuté à l'Assemblée nationale. Et c'est vraiment un truc qu'on a quand même pas mal entendu et lu. Le projet de loi n'est pas encore passé à l'Assemblée nationale, donc on ne va pas faire grève maintenant parce qu'à l'Assemblée nationale, aussi bien au cours de la discussion, il peut être changé. Alors il vaudrait mieux ne faire grève qu'une fois qu'il serait voté. Bien sûr, c'est les mêmes gens qui, une fois que le projet de loi sera voté, diront « Bah, non mais là, il est voté, c'est plus la peine de faire grève. » Bon, il nous reste quand même la CFDT, Sudrail, et puis l'UNSA, et je ne sais plus qui. En tout cas, pour le moment, aujourd'hui, un paquet de trains n'ont pas circulé. Il y en a pas mal qui ne devraient pas circuler demain non plus. Par la suite, on ne sait pas bien. Les préavis, en fait, la grève a commencé hier soir à 19h, et les préavis sont revotés chaque jour pour 24h, donc pour jusqu'aux 19h suivantes. Le gouvernement reçoit ce soir, peut-être même cette nuit, les organisations syndicales. Normalement, ils avaient rencard jeudi, mais finalement, ils ont avancé parce que, contrairement aussi à ce que dit la moitié des médias, la grève a l'air de fonctionner plutôt pas mal. Et contrairement à ce que dit le gouvernement, qui dit « Non, mais en fait, il n'y en a pas un sur quatre qui est gréviste. » Alors la CGT, elle dit « Il y en a largement un sur deux. » Bon, On n'est pas allé compter, on s'en fout. En tout cas, selon ce que donneront les discussions de cette petite réunion, là, la grève voilà, sera prolongée ou pas. Ça risque quand même d'être un peu compliqué vu que les grévistes, là, eux, ils demandent juste le retrait pur et simple du projet. Et ils veulent des réformes, mais ils veulent rien de ce qu'il y a dans le projet. C'est-à-dire, ils veulent un truc vraiment radicalement différent. Et du coup, ils exigent d'une part le retrait du projet, d'autre part le dépôt d'un autre projet à peu près opposé. En même temps, un autre projet qui serait à peu près opposé, mais qui serait plus proche, comme on va le voir, de ce que le gouvernement promettait il y a à peu près un an et demi. Alors, quand même, pour pas trop se faire chier, je suis surtout allé pomper un article dans l'UMA, un truc écrit par Guillaume Carrel, qui est le secrétaire général de la Fédération CGT des cheminots, et qui dit ça. Alors, je commence par résumer ce qu'il raconte au début, mais en gros, c'est ça. C'est que depuis 97, ce qui était jusque-là, la SNCF a été divisée en deux entités. Donc avant, il y avait la SNCF qui gérait globalement les chemins de fer, quoi. Et puis en 97, ça a été divisé. Il y a d'une part ce qui s'appelle toujours la SNCF qui s'occupe de faire rouler les trains, mais d'autre part, il y a ce truc qui a été créé qui s'appelle RFF, Réseau Ferré de France, et qui s'occupe de l'entretien des voies, éventuellement de la construction de nouvelles voies. Et voilà. Du coup, deux trucs qui sont différents, qui pour l'instant sont tous les deux publics encore. Depuis cette histoire, la dette liée aux investissements d'aménagement du territoire n'a pas arrêté d'augmenter. Son poids financier, du coup, retarde les travaux qui seraient hyper nécessaires, en particulier du côté de RFF. Le délabrement du réseau ferré a quand même été largement constaté par deux expertises indépendantes. Nombre de dysfonctionnements et d'accidents trouvent leur origine dans cette organisation, en deux parties, du coup, RFF d'un côté, SNCF de l'autre. Et Frédéric Cuvillier, qui était ministre des Transports en octobre 2012, annonçait même qu'il allait réunifier le système, et donc réunir ces deux trucs-là, et pour qu'ils répondent aux besoins d'un chemin de fer français, quoi. National, unifié. Voilà, j'ai des soucis de vocabulaire. ce Frédéric Cuvillier avait affirmé que le statut des cheminots devait être préservé et qu'il fallait maintenir la qualité et la sécurité de ce service public. Il parlait bien de service public, tout ça, ça avait l'air pas mal. Mais, comme sur d'autres sujets, le gouvernement a finalement plié aux injonctions, en l'occurrence des technocrates de Bruxelles, à la pression du président de la SNCF et globalement du libéralisme, pour transformer notre service public SNCF en service commercial ouvert au marché. Et donc le projet de loi qui est présenté au Conseil des ministres, qui a été présenté au Conseil des ministres en octobre dernier, et qui est donc inscrit à l'agenda parlementaire à partir du 17 juin prochain, n'a plus rien à voir avec le discours qui avait été prononcé il y a un an et demi. Ce projet de loi entend éclater la SNCF en, cette fois, trois entreprises distinctes. Il ne traite ni la dette, ni le financement des travaux nécessaires. Bon, alors, en gros, trois entreprises, il y aurait toujours un truc qui s'appellerait autrement, mais qui correspondrait à la SNCF, un autre qui s'appellerait autrement, qui correspondrait à Réseau Ferré de France, et un troisième qui serait une sorte de petit chapeau sur les deux. Bon, ça complique un peu les choses sans qu'on comprenne vraiment ce que ça peut amener, si ce n'est d'organiser à un moment ou à un autre la privatisation de certaines activités, etc. etc. Alors ce projet de loi... ce projet de loi ne s'occupe vraiment ni de la dette, ni de financer les travaux qui sont nécessaires et de plus en plus nécessaires. Et pour réduire cette dette, qu'est-ce que c'est les recettes? Ça va être la réduction d'effectifs, la déqualification, la baisse des services et des normes de sécurité. Alors vous imaginez bien, moins d'effectifs, moins de qualifications pour les gens embauchés. Ça veut quand même dire que les trains vont se mettre à dérailler, hein. Et puis, quand même, parce que c'est bien d'être dans un train qui déraille, mais malgré tout, il faut le payer, hausse des tarifs. C'est avec tout ça que la dette devrait être réduite si le projet tel qu'il est passe. Pourtant, la preuve est faite que la libération a des conséquences terribles, écrit donc ce gars de la CGT que je suis en train de vous citer. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend en exemple d'autres pays européens où les populations des pays qui se sont lancés dans cette aventure, dit-il, le mesurent bien, sécurité au plus bas, tarifs explosés, le réseau et la qualité du transport se sont détériorés au même rythme que les conditions de vie et de travail des cheminots. En France, il y a une partie des activités du chemin de fer qui est déjà privatisée, qui est déjà ouvert à la concurrence, donc en partie privatisée, c'est le fret, c'est le transport de marchandises. Et du coup, depuis que ça a été privatisé, le nombre de tonnes transportées par kilomètre, par rail, a été divisé par deux. Et puis le reste est surtout transporté en camion, c'est-à-dire énormément plus polluant. Et puis bien sûr, les conditions de travail, etc. Ce sont des gens qui bossent là-dedans, sont dégradés, etc. Donc la CGT et Sudrail et l'UNSA ont alerté à plusieurs reprises. Il y a déjà eu une grève le 13 juin et le 12 décembre 2013, donc il y a un an quoi, et cet hiver. Manifestation nationale le 22 mai 2014. Là, le gouvernement en a rien à foutre et du coup les cheminots sont aujourd'hui en grève reconductible. Ils exigent en particulier donc une réelle réunification de la SNCF, donc pas deux entreprises, pas trois entreprises, mais une entreprise. Traitement de la dette d'État portée par le système, et du coup en réalité que l'État rachète la dette de la SNCF, mais voilà, ce qui est normal pour un service public. Et troisièmement, un financement de la régénération du réseau et de son développement par des ressources nouvelles et une autre organisation de la production. Il est essentiel, disent les trois syndicats, de maintenir un niveau de qualification et des normes sociales aptes à répondre aux contraintes du service public tout en garantissant la sécurité des circulations et des usagers. En effet, il est impératif de faire du transport de marchandises par des modes alternatifs à la route et que ce truc-là soit un service d'intérêt général. Si réforme il doit y avoir, c'est vers la voie d'un service public SNCF qu'il faut aller. Voilà ce que disent ces syndicats. Et voilà. Et bon, bah, pour terminer, on va, bon, en fait, comme on fait un peu à chaque fois qu'on parle de réforme autour de la SNCF, parce que globalement, ces dernières années, les réformes autour de la SNCF, ça n'a pas tellement dans le bon sens. On ne peut que conseiller à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices de regarder ou de revoir l'excellent film de Ken Loach qui s'appelle Navigators. Navigators.
Lundi dernier, un braqueur a décidé de se faire la bijouterie Karat en solitaire. Vers 14h, près des Champs-Élysées, un gars débarque dans la bijouterie avec son fusil caché dans son sac, se fait ouvrir le sas comme n'importe quel client, puis il regarde les montres toujours comme n'importe quel client. Puis à ce moment-là, il sort son arme, met en joue la bijoutière, puis l'oblige à le conduire en salle des coffres et à lui ouvrir. À l'intérieur de ce coffre, il prend plus d'une dizaine de montres, puis sort et enferme l'employé dans le coffre afin qu'elle ne prévienne pas la police. Avant de partir, le braqueur prend soin de récupérer les bandes de vidéosurveillance de la bijouterie pour ne pas se faire repérer parce qu'il agit à visage découvert pour pouvoir se faire ouvrir le sas comme un client normal. Et là, il s'enfuit à pied de la bijouterie, toujours comme un client normal. Puis ensuite, allait se dissimuler dans la foule du métro. Alors là, on précise que là, il était plus tout à fait comme un client normal de ce genre de bijouterie, parce qu'en général, ce genre de gens ont plutôt des grosses voitures qui les attendent à la sortie. C'était le premier truc qui devait mettre la puce à l'oreille aux gens. Au total, pour ces quelques dizaines de montres, il y en aurait pour plus d'un million d'euros. Bon, alors, oui, ça c'est le genre de choses.
De ces montres coûte quand même plusieurs fois ce que toi ou moi risquons de gagner au cours de notre vie entière.
Ouais, je pense. Oui, même bien, je pense. Voilà, en tout cas, il s'est toujours pas fait choper. C'est quand même un joli coup pour un braquage solitaire. On lui souhaite bon vent.
Et ouais, vous l'avez entendu dans les titres tout à l'heure, attention, il ne faut pas se réjouir trop entièrement, mais la condamnation à la prison à vie de Pinar Selek a été annulée aujourd'hui. C'est la cour de cassation turque qui a fait ça. Donc a annulé la condamnation controversée à la prison à perpétuité qui avait été infligée en 2013 à la sociologue turque réfugiée aujourd'hui en France, Pinar Selek. Alors elle sera quand même rejugée du coup par un tribunal à Istanbul à une date qui reste à fixer. Donc Pinar Selek, si jamais il y a des gens qui ne voient plus qui c'est. Pinar Selek, c'est une sociologue. Elle a été élevée dans une famille militante. Elle fait partie de ces gens pour qui la sociologie, c'est quand même plutôt une arme militante. Elle a en particulier, du coup, quand elle était encore en Turquie, soutenu la lutte des Kurdes et aussi beaucoup celle des personnes trans. C'est sans doute pour ces deux raisons, et sans doute quand même plus pour la première, mais quand même la deuxième, parce que les trans en Turquie, c'est aussi une situation bien bien hardcore. Et du coup, c'est sans doute pour ces raisons qu'elle a été arrêtée en 98, après une explosion qui a eu lieu sur le marché aux épices d'Istanbul, et qui avait fait 7 morts et une centaine de blessés. La justice lui avait reproché à ce moment-là d'être membre du PKK et d'avoir préparé et posé la bombe, ce qu'elle, elle a toujours nié, et vous allez voir qu'elle avait quelques raisons pour ça. Donc elle a quand même été remise en liberté en 2003, après qu'il y a eu un rapport d'expertise sur cette explosion. Donc attention, elle a été arrêtée, on a dit, en 98. Il a donc fallu 5 ans quand même pour faire un petit rapport qui montrait qu'en fait il n'y avait jamais eu de bombe et que l'explosion était due à une fuite de gaz.
Putain.
Donc là, elle sort de 5 ans de prison, et elle en profite quand même pour se tailler un peu rapidos parce qu'elle se doute de ce qui va suivre. C'est qu'il y avait eu ce rapport et il y avait eu la rétractation du principal témoin à charge. Du coup, là, les tribunaux, ils ont quand même fait, bon, là, peut-être on va laisser sortir. Mais à chaque fois, la Cour de cassation a invalidé tous les verdicts d'acquittement. Et donc, à chaque fois, elle a été rejugée. Donc, pour l'instant, ça en est à 3 fois, hein, quand même. Elle a été jugée en 2006, en 2008, en 2011. À chaque fois, elle a été acquittée. À chaque fois, la Cour de cassation a dit, ah non, en fait, on s'est certainement trompé, il faut recommencer. Du coup, en 2012, finalement, il y a un tribunal à Istanbul qui a décidé de la rejuger encore une fois. Bon, pendant ce temps, elle était en France. Hein, elle n'est pas trop retournée vérifier ce qui se passait au bled. Donc, en 2012, un tribunal décide de la rejuger à la faveur d'un changement de juge. Et donc, en 2013, elle est condamnée à la réclusion à perpétuité. Et donc, c'est cette condamnation qui a été annulée aujourd'hui, décidément, la Cour de cassation turque. Passe son temps à annuler toutes les décisions de tous les tribunaux qui concernent Pinar Selek, mais pour la première fois, on peut s'en réjouir avec elle. Donc Pinar est donc réfugiée en France depuis 2003. Elle habite à Strasbourg, elle continue sa vie d'universitaire et sa vie de militante. Ce soir-là, en ce moment, à l'heure où je vous parle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de papoter à Lyon, dans la librairie Terre des Livres. Attention, n'éteignez pas votre radio tout de suite pour vous y précipiter en courant, c'est pas la peine. Il n'y a déjà plus de place. Il fallait retenir à l'avance parce que c'était prévu qu'il y ait un max de monde. Mais si vous voulez, vous pouvez toujours aller sur Internet, sur le site Son en Lutte, et vous y trouverez une excellente interview de Pinar Selek qui a été réalisée il y a à peu près 2 ans par l'émission de Canu On n'est pas des cadeaux. Je pense que vous la trouverez aussi sur le site de On n'est pas des cadeaux, voire sur le site de Radio Rageuse. Voilà, bon quand même, malgré tout, allez, on termine par cette petite phrase de son comité de soutien qui nous rappelle à la réalité. Après 16 ans de lutte, le procès n'est pas terminé. Tout le monde est fatigué de cet acharnement judiciaire et rien n'est gagné. Pourtant, aujourd'hui, nous sourions et reprenons de la force.
Alors, sur cette antenne, vous nous entendez pas souvent prendre la défense des curés. Mais là, quand même, sur ce coup-là, c'était un peu obligé. Alors, tout commence en 2007, quand Gérard Riffard, curé de l'église de Montreno à Saint-Étienne, voit des familles à la rue avec des enfants. Là, il se dit que c'est pas possible que des bébés dorment dehors. Il décide donc d'accueillir les mères et les enfants dans une salle qui sert habituellement de salle de réunion. Bon, après réflexion, il a arrêté d'essayer de trier les gens dans les familles et a accueilli aussi les gars, parce que bon, quand même, c'est pas moins pire pour eux de dormir dehors. Tout ça quand même, on commence à dire que ce gars n'est pas si mal. Tous sont demandeurs d'asile, venant principalement de la République démocratique du Congo ou d'Angola, et ils sont au total une quarantaine. Et c'est sûr que dormir à 40 dans une salle, c'est pas très confortable, mais c'est quand même toujours moins pire que la rue. Le prêtre se dit que de toute façon, ce n'est que pour quelque temps, le temps de trouver une autre solution. Sauf que les solutions quand t'es demandeur d'asile, elles n'existent pas. Du coup, la situation dure.
Surtout que le prêtre, il croyait en Dieu, si ça se trouve, il croyait même en la préfecture, ce qui est encore pire.
Ouais, bah là, il va vite être déçu. Hein. Mais donc, voilà, la situation continue de durer, et pour lui, pas question de les foutre dehors. En août 2012, donc 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 ans plus tard, le curé reçoit la visite de la commission municipale de sécurité qui décrète qu'il est impossible d'héberger qui que ce soit dans ces conditions. En février 2013, un arrêté de fermeture est pris au motif, écoutez bien, l'accueil pour le sommeil n'est pas une utilisation normale des locaux de l'église. Non, c'est vraiment ce qui est écrit dans l'arrêté, quoi. Bon, d'une, que ceux et celles qui n'ont pas été traînés de force dans une église pour assister à une messe longue et chiante n'en ont pas pour profiter pour taper une petite sieste me fasse signe. De deux, faudrait leur demander à ces couillons que si la sécurité d'un trottoir ou d'un parc est suffisante pour dormir dehors, et de trois, s'ils n'ont rien d'autre à foutre, qu'ils aillent mettre leur nez dans les immeubles vétustes ou appartements insalubres loués par des proprios peu scrupuleux. Parce qu'il y en a quand même tout un tas à Saint-Étienne et ailleurs. Parce qu'avec leur connerie là, cette commission, le curé s'est retrouvé au tribunal aujourd'hui, où il risque 12 000 euros d'amende au titre de 239 jours amende à 50 euros le jour. Voilà, ça fait bien 12 000, à peu près. Requis contre lui. Bon, alors, ce qui est rassurant dans ce cas-là, c'est qu'il y a quand même 200 personnes qui sont venues le soutenir à son audience, et je peux vous dire, en voyant les photos du procès, qu'il y avait beaucoup plus de cheveux blancs que de capuches sur les têtes. Le rendu du procès sera le 10 septembre. On espère quand même, enfin, on imagine un peu que quelqu'un qui arrive comme ça au tribunal, qui est prêtre et qui dit « Non, mais j'ai juste accueilli des gens dehors », on imagine, bah, je sais pas, moi, en tout cas, j'imagine que la justice va pas lui filer ses 12 000 euros.
Ouais. Bah on espère. Simeline, she was on a date with the Jones. Love's late, she's lost a woman on her own. She needed two gentlemen of her own. This is a state and I am the owner. Oula, c'est 19h25. Ouais, il nous reste deux trucs à raconter alors. Bon, là, allez, on va se réattaquer un petit peu à des vieilles histoires autour du Rwanda. On va remuer de la vieille merde. Encore une fois, encore et toujours. Pourquoi est-ce qu'on continue tout le temps à reparler du Rwanda? Ça fait déjà plus de 20 ans maintenant, du moins il y a 20 ans exactement, on était en plein génocide. Et bon, quand même, en résumé sur ces histoires de ce que c'est qu'un génocide, là, en gros, en 1945, le monde entier s'est dit que plus jamais ça. Et en gros, qu'il y avait d'un côté le nazisme et de l'autre la démocratie représentative, bourgeoise, comme on la vit aujourd'hui, et que c'était le meilleur enjeu contre des choses aussi horribles que le nazisme ou que des génocides. Qu'est-ce qui s'est passé en 94? C'est qu'un génocide le plus efficace de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire vraiment en productivité quand même, vachement mieux que les nazis, ils ont réussi à bousiller 1 million de personnes, non pas en 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais en 3 mois. Et tout ça, entre autres, en particulier et énormément, parce que le régime rwandais, qui lui n'était pas entièrement démocratique, même si au moment du génocide, en réalité, il l'était. Hein. Il y avait le multipartisme, il y avait tout ça. Mais de toute façon, tout ça a été énormément, énormément co-organisé par la France, le pays fille aînée de l'Église. Non, c'est pas ça qu'il fallait dire, non, c'était fille aînée de la démocratie et créatrice des droits de l'homme. Et que la France jusqu'à aujourd'hui continue, selon qui est la France, hein, mais continue à nier ou à minimiser ou à dire que c'était pas si grave, que les responsables politiques qui ont pris à l'époque les décisions mené à ce génocide, et ils courent toujours, hein, tout le monde est très 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 loin de leur demander des comptes juridiquement, par exemple. Et voilà. Et donc, une fois de temps en temps, on continue à revenir sur des petits détails qui sortent, qui ressortent. Bon, on le fait beaucoup en se basant sur les communiqués de presse de l'association Survie, l'association de lutte contre la France-Afrique. Et donc, c'est encore une fois ce que je fais. Là, pendant ce dernier mois d'avril, au moment de cette 20e commémoration des génocides des Tutsis, on a eu droit à ce petit incident diplomatique entre la France et le Rwanda, parce que le président Kagame avait parlé du rôle de la France dans le génocide, ce qui est du coup, ce qui est certain. En réalité, mais la France a continué à faire quoi, c'est scandaleux, vous pouvez pas dire ça, nous sommes la France, blablabla, bla, bla, bla. Un mini pays comme ça, on peut pas nous insulter, en plus vous êtes que des nègres, non ils ont pas dit ça, mais quand même on l'entendait un petit peu derrière ce qu'ils disaient. Et voilà, bon, incident diplomatique, malgré tout ça a fait que tout le monde s'est un peu mis à reparler de ce sujet, qu'on a à nouveau entendu des choses et à nouveau en réalité progressé un peu sur la connaissance de ce qui s'est passé et comment, aussi parce qu'il y a des journalistes qui ont profité pour recreuser un peu, etc. Et puis, entre autres, il y a à nouveau eu des responsables politiques de l'époque qui ont été auditionnés d'une manière ou d'une autre par différentes commissions, machin, truc. Et donc, en l'occurrence, là, on va parler de Hubert Védrine qui a parlé devant la commission de la défense de l'Assemblée nationale. Hubert Védrine, qui à l'époque était, je ne me souviens plus quoi, mais en tout cas, qui était d'une manière ou d'une autre, il bossait pour François Mitterrand, quoi. Et donc, Hubert Védrine, interrogé par le député Joachim Pueyo, qui lui demande « Est-ce que la France a livré des munitions aux forces armées après le début du génocide ?» Donc je rappelle les forces armées qui étaient en train de commettre le génocide entre avril et juillet 1994. Donc est-ce que la France leur a livré des armes et à quelle date ? Et là, donc Hubert Védrine, qui, ça y est, j'ai trouvé, était secrétaire général de l'Élysée en 1994, répond « ce que je crois être le cas, ce que j'ai compris à l'époque ou après, avec le recul ou maintenant, bon, c'est de l'oral hein, que je suis en train de qui a été transcrit, mais c'est que la France a donc armé l'armée rwandaise pour résister aux attaques du FPR ou de l'armée ougandaise avec un certain type d'armement qui n'a jamais servi au génocide. Donc la France a filé des armes à l'armée rwandaise qui était en train de faire le génocide, mais ces armes n'ont jamais servi au génocide. Avec un certain type d'armement, leur affilé en tout cas. Bon, ça, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et donc, pour résister aux attaques du FPR. Le FPR, c'était les Tutsis qui avaient été en exil et qui, à ce moment-là, étaient effectivement en train de rentrer au Rwanda et qui arrêtaient le génocide au fur et à mesure qu'ils avançaient, eux. Mais donc, la France trouvait important de soutenir l'armée rwandaise qui, elle, commettait le génocide contre le FPR qui était en train d'arrêter le génocide. Donc, Hubert Védrine continue. Donc, c'était armé dans ce but à partir de 90 et après. Donc, il y a eu des livraisons d'armes pour que l'armée rwandaise soit capable de tenir le choc. Parce que s'il n'y avait pas d'armée capable de tenir le choc, vous pouvez oublier Arusha et tout le reste, il n'y a plus les éléments, il n'y a plus le levier pour obtenir un compromis politique. Donc, il est resté des relations d'armement. Et c'est pas la peine de découvrir sur un ton outragé qu'il y a eu des livraisons qui se sont poursuivies. C'est la suite de l'engagement d'avant. La France considérant que pour imposer une solution politique, il fallait bloquer l'offensive militaire. Ça n'a jamais été nié, ça. Donc, c'est pas la peine de le découvrir, de le présenter comme étant une sorte de pratique abominable masquée. C'est dans le cadre de l'engagement, encore une fois, pour contrer les attaques. Ça n'a rien à voir avec le génocide.
Putain, à l'époque, le Parti Socialiste, quand ils avaient des engagements, ils les tenaient au moins.
Ah, tu m'étonnes. Ça, c'est pas comme, c'est pas tout à fait comme la PM. ou comme la GPA, ou comme quoi que ce soit, d'ailleurs. Après Bernard Kouchner, ou comme le droit de... Bon bref, de vote des immigrés, on va pas revenir dessus. Donc voilà, ça c'était Védrine. Alors on se rappelle que Bernard Kouchner avait lui déjà dit que Paris avait livré des armes jusqu'en août 1994. Et donc aujourd'hui c'est Védrine qui reconnaît l'existence de ces livraisons. Or, il faut quand même savoir qu'en plus du fait que ce gouvernement était un gouvernement génocidaire, mais de toute façon un embargo international sur les armes avait été décrété depuis le mois de mai par l'ONU. Hubert Védrine justifie les livraisons d'armes pendant le génocide par la nécessité de contre-attaque, de contrer les attaques du Front Patriotique Rwandais, du FPR, pour, dit-il, imposer une solution politique. Mais dans le contexte du génocide, aider l'armée rwandaise à bloquer l'offensive militaire du FPR, ça revenait à permettre que se poursuive le génocide des Tutsis à l'arrière du front, puisque ce sont bien les troupes du FPR qui mettaient fin, au fur et à mesure qu'ils avançaient, à l'extermination des Tutsis. Donc en gros, pour faire ce parallèle, mais en réalité il est vraiment faisable. Hein. C'est un peu comme si un pays avait dit « Oh non mais nous on a livré des armes à l'Allemagne nazie ». Mais attention, hein, c'était juste pour bloquer l'avancée des Russes.
Puis ils s'en sont pas servis d'ailleurs.
Et ils s'en sont pas servis, et ils ont tué aucun juif avec. Monsieur Védrine refuse par ailleurs de prendre en compte que ce que les documents militaires français eux-mêmes nous apprennent sur le rôle de l'armée rwandaise dans le génocide. L'ordre d'opération Amaryllis, donc ça c'est une opération de l'armée française, qui est l'ordre daté du 8 avril 1994, indique que les membres de la garde présidentielle ont procédé dès le 7 avril au matin à Kigali à l'arrestation et à l'élimination des opposants et des Tutsis. Pour sa part, l'ordre d'opération turquoise, donc ça c'est plus tard au mois de juin par là, 94. L'ordre d'opération turquoise du général Lafourcade, daté du 25 juin 94, mentionne, ouvrez les guillemets, un génocide perpétué par certaines unités militaires rwandaises, donc bien l'armée rwandaise, hein, on est bien d'accord, à qui donc on livrait des armes, et par les milices Hutus à l'encontre de la minorité Tutsi. Il n'y a donc aucune ambiguïté sur le rôle joué par les forces armées rwandaises dans les massacres. Donc comment est-ce que M. Védrine peut dire à ce moment-là que l'État français ne leur a fourni qu'un certain type d'armement qui n'a jamais servi au génocide ? Le distinguo qu'il opère entre les armes qui ont servi à combattre le FPR et les armes qui ont servi au génocide n'a bien sûr aucun sens, c'est Survie qui le dit. en affirmant dans l'exposé liminaire de son audition que, ouvrez les guillemets, les Hutus n'ont pas fait les massacres avec les armes françaises fournies pour tenir la frontière avec l'Ouganda. Les massacres, comme vous le savez, ont été faits à coups de machette, village par village, puisque de toute façon, c'est des négriers qui sont tués à coups de machette. Et ben, en disant ça, Hubert Védrine réécrit l'histoire. En réalité, une part non négligeable des victimes du génocide ont bien été tuées par des armes à feu, par des balles, par des éclats de grenades, etc. En gros, ce qui s'est quand même beaucoup, beaucoup fait, c'était d'attaquer les Tutsis. Mais avant de les attaquer, de les avoir regroupés, souvent dans des édifices publics ou dans des églises. Et à ce moment-là, de les attaquer à la grenade et au fusil. Et puis de les achever à l'arme blanche. C'est-à-dire, on tirait dans le tas, on balançait des grenades. Et une fois qu'une bonne partie était morte et que les autres étaient bien blessés, là, on envoyait les gens avec des machettes et des sagaies les terminer. Étant donné qu'à l'exception peut-être des munitions pour hélicoptères, tous les types d'armes dont disposaient les forces armées rwandaises ont bien été utilisées pour commettre le génocide, donc armes de poing, c'est Survie qui fait le détail, hein. Munitions de 5,56 et de 7,62 pour les fusils R4, Kalachnikov, FAL, je ne me demandais pas ce que c'est, je ne suis pas un spécialiste en armement, grenade à main, grenade à fusil et même obus de mortier. Il fait peu de doute que les livraisons d'armes par notre pays à partir d'avril 1994 ont servi à la fois à la guerre contre le FPR et au génocide des Tutsis. Hubert Védrine devrait par conséquent expliquer qui sont les responsables politiques ou militaires français de l'époque qui ont donné l'ordre de livrer des armes aux génocidaires pendant le génocide, quel type d'armes ont été livrées, à quelle date, par quel canot, avec quel financement. Est-ce que Paul Baril, par exemple, qui avait signé le 28 mai 1994 un contrat de fourniture d'hommes et de munitions avec le gouvernement intérimaire rwandais, a joué un rôle dans une stratégie indirecte qui, elle, devait exister, puisqu'il a été évoqué par les généraux Kéno et Huchon qui ont à l'époque servi au Rwanda. Et donc le Parlement devrait peut-être demander des comptes au pouvoir exécutif sur la politique menée au Rwanda. Il est aujourd'hui évident que le travail important conduit en 98 par la mission d'information parlementaire présidée par Paul Quillès n'a pas permis d'éclairer la question des livraisons d'armes pendant le génocide. En fait, cette mission Quillès a surtout permis d'arriver à des conclusions qui disaient « la France n'a rien fait, la France n'y est pour rien ». Je suis désolé, j'ai mal préparé cette partie du Canu Info, je me demande ce qui vaut le coup de vous raconter ou pas. On va s'arrêter là. Et puis voilà, on va passer à la suite.
Pardon, j'étais en train de bâiller.
Ah bah décidément.
Alors le site interne, enfin le site interne d'une filiale de l'entreprise Monsanto. Monsanto, on le rappelle, c'est un énorme groupe financier qui fait de la biotechnologie agricole et entre autres qui est célèbrement connu pour ses OGM. Et donc là, c'est une des filiales Precision Planting qui s'est fait pirater son site internet. Oui, c'est mal, hein. Parce que surtout que le piratage aurait eu lieu en mars 2014 et c'est que seulement maintenant qu'ils s'en sont rendus compte ou qu'ils le reconnaissent. Au total, 1300 données de clients sont concernés et dans ces données, pas mal d'informations sensibles comme le nom des clients, adresse, numéro d'identification fiscale, numéro de sécurité sociale et des données financières. En plus de ça, comme Precision Planting stockait sur le même serveur les données clients et les données des employés, les pirates ont également eu accès aux données du personnel, des données du genre nom, adresse, numéro de sécurité sociale, numéro de permis de conduire, etc. Ce qui peut permettre à une personne qui veut se rendre sur un site, du coup là on parle d'un site physique, voilà, de Monsanto, et ben il lui est à peu près possible de se faire faire une fausse identité, genre par exemple en connaissant les plaques d'immatriculation d'une personne travaillant pour cette filiale et de pouvoir éventuellement passer un portail de sécurité en disant bah voilà, je suis telle personne, je travaille pour la filiale Precision Planting, j'ai rendez-vous, nanana. Voilà, on ne sait pas si c'est dans ce but-là en tout cas que ça a été dérobé, mais voilà, ça rend ce genre de choses possible. Et tout un tas de trucs, hein, sur les données financières et tout, ça permet de pirater des comptes bancaires. Mais ce piratage n'est pas sans rappeler qu'un groupe de pirates informels dénommé Antisec, on en a parlé plusieurs fois sur Scanu Info, avait décidé en 2011 de faire la guerre aux grands groupes industriels, du coup aux grands groupes au pluriel, hein, pas seulement Monsanto, aux États et aux militaires. Donc, il y a des gens qu'on aime bien quand même parce que ils ont choisi les bonnes cibles. Ils avaient déjà diffusé sur internet 2550 noms de personnes travaillant pour Monsanto. Bon, ils aiment vraiment pas Monsanto, j'ai l'impression, si ce premier piratage ça vient d'eux. Ils avaient également piraté 90, d'ailleurs ils s'étaient fait surtout bien connaître à partir de ça, 90 000 mots de passe qu'ils avaient rendus publics sur eBay, des mots de passe appartenant à des militaires, parce que ce piratage ils l'avaient effectué sur les serveurs de la société de conseil militaire Bose Allied Hamilton qui travaillait en, j'imagine, je m'y travaillais, mais peut-être qu'il travaille toujours, je sais pas, en étroite collaboration avec le Pentagone.
Mais attends, t'as dit qu'ils avaient rendu ces données publiques sur eBay, ils les avaient comme...
Non, pas sur eBay, j'ai dit eBay.
Oui.
Pardon, sur Pirate Bay.
Ah.
Autant pour moi. Qui est un site non marchand et complètement gratuit. Pour le coup.
Ok, et ben voilà, voilà. Mon Dieu, c'est l'heure, il faut laisser la place à idées noires. Bon, bah tant pis, alors on va s'arrêter. Et non, en réalité, c'est pas tant l'heure que ça, on va surtout s'arrêter parce qu'on a plus rien à vous dire.
Tout à fait. Mais on va vous laisser avec les bandes continues.
Hein?
On va vous laisser avec les bandes continues.
Ouais, c'est ça. Hein. Et puis, bah, idées noires, on les voit pas. Alors, si ça se trouve,
ouais, mais
en vacances scolaires, ils devraient être là.
Comme on a, ouais, c'est ça. Et puis, comme on finit bientôt, ouais, cette fois-ci, on n'est pas très non plus.
Donc, ne perdez pas espoir. Normalement, dans 22 minutes, commence l'émission Idées noires, l'émission de la CGA, la coordination des groupes anarchistes lyonnais. Et quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine, sauf moi.
Ah! Eh ben, on va être nombreux, je sens.
Eh bien, bonsoir.
Bonne soirée, merci de nous avoir écoutés.
Le Lone est encore avant, on a pu s'écouter.
Ah non, mais ça, on peut vraiment pas remettre les bandes continues.
C'était quoi
où ça dit, on a écouté ça, on a écouté ça, on a écouté ça, alors qu'en réalité, on vient de parler. Donc voilà, maintenant, je pense que la musique a repris.
Les salauds, chanson engagée. Une chanson contre les bourgeois qui crachent son venin à face de la société. En blé, on va pas se faire emmerder, non? Mon père est mort à la guerre. Mon frère se tue au travail. Et les salauds s'en moquent bien. Que l'on crève comme des chiens. Les salauds! Les salauds, c'est à la sueur de notre front que les salauds gagnent leur pognon et ils nous jettent pour faire ripaille les copains de notre travail. Les salauds, oui mais un jour on sera fort et dans les villes et dans les ports, les hommes lèveront leurs poings pour foutre sur la gueule des rupins. Les salauds, alors ils vont envoyer leur police, mais comme on est plus nombreux, on va leur foutre sur la gueule, et on va leur faire bouffer leur képi, parce que s'il y en a qui vient m'emmerder, j'y fous ma guitare à travers la gueule. Alors merde, on va pas se faire emmerder par les flics, hein. Comme la gueule.